pourquoi? Je vais donc commencer par me présenter. D'abord, que je ne suis pas. Je ne suis pas un théologien. Il y a parmi vous, il y a parmi les personnes qui sont intervenues à cette place, des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine. Là, moi, je suis plutôt à votre écoute. Je ne rivaliserai pas sur ce terrain-là. Quelques mots à propos de mon parcours. J'ai été élevé dans la religion catholique. Ça va comme ça? Bon. J'ai même fréquenté à une époque de ma vie un certain nombre de jésuites, dont j'ai suivi l'enseignement. Mais donc depuis, j'ai pris quelques distances avec l'Église catholique. Je suis marié à une protestante, et c'est comme ça que je me retrouve ici. Merci Jean-Marc. Mais je suis surtout un psychanalyste. Un psychanalyste qui a été formé à ça. Un psychanalyste qui appartient à une société, la société psychanalytique de Suisse. Il y a bientôt une vingtaine d'années que j'exerce sur un site. On dira que je suis un classique. Je n'aime pas le terme de freudien, parce que tous les psychanalystes le sont plus ou moins. Et puis surtout parce que ça voudrait dire qu'on ignore tout ce que les autres ont écrit et pensé après lui. Comment je vais articuler mon propos ? Je vais faire un court préambule sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de foi et psychanalyse. Ensuite, ce que j'aimerais montrer, c'est que les figures du Messie, la démarche messianique, sont sans doute traversées par du divin, mais c'est aussi traversé par de l'humain. Et que, en particulier, on retrouve dans tout ce qui touche au messianisme, des éléments qui renvoient aux premières expériences de notre âme, la constitution de l'homme, aux premières expériences infantiles. J'aimerais montrer aussi que le discours messianique a une fonction sociale, historique, par rapport aux périodes de crise, mais que peut-être plus généralement, il y a des choses qui nous éclairent sur le fondement de l'homme, mais, enfin, de l'homme tel que je le conçois en psychanalyse. J'aimerais, pour conclure, après un travail de décapage centré sur l'humain, montrer que pour moi ça n'empêche pas de croire, et si j'ai le temps, j'essaierai de faire un parallèle entre le travail que nous propose un Messie, le travail que nous propose l'apôtre, ça a peut-être des choses à voir avec le travail de la cure. La psychanalyse, c'est une expérience qui décape. Elle s'attache aux couches superficielles de ce que nous sommes. Elle s'efforce de démonter les pseudo-vérités, les pseudo-équilibres que constituent les symptômes, par exemple. C'est une démarche qui nous révèle ce que nous sommes. La foi, le phénomène religieux, au même titre que tout aspect de l'existence d'une personne, peut être revisité et même ébranlé par une démarche analytique. Mais il me semble faux aujourd'hui de dire, comme on a pu le dire à un moment, que la psychanalyse, ça fait perdre la foi. Ça ne correspond pas du tout à mon expérience. Il y a bien sûr des gens qui perdent quelques restes de leur catéchisme, mais ce que je constate plutôt, c'est que dans le cours du bout d'une analyse, les gens affermissent plutôt leurs engagements, leur implication dans les différents aspects de leur vie. C'est la même chose pour un couple. L'analyse révèle des fragilités qui sont déjà là pour certains, mais on peut dire aussi que l'analyse raffermit beaucoup d'autres couples. Freud était athée. Ça se comprend historiquement avec l'époque dans laquelle il vivait, avec l'essor du rationalisme et du positivisme. Il voulait inclure dans sa démarche la science de son temps. N'oublions pas qu'il était biologiste, neurologue de formation, et qu'il a commencé à inventer la psychanalyse alors qu'il n'avait que 55 ans. Il voulait fonder une biologie de l'esprit. Il était extrêmement soucieux de l'objectivité de sa démarche, et il voulait justement se garder de toute croyance, de tout élément, de toute doctrine qui pourrait a priori venir parasiter ce qu'il est en train de découvrir. Bon, ça, par exemple, a amené à renoncer à la lecture de certains philosophes qui sont trop proches de lui pour ne pas être contaminés par leurs pensées. Il avait par contre une connaissance encyclopédique du judaïsme, des mythologies grecques, égyptiennes, de la littérature, de la peinture. C'était quelqu'un qui avait une somme de connaissances fabuleuses. Alors, les premiers successeurs sont restés sur cette ligne de pensée en étant très méfiants à l'égard de toute croyance. On peut dire aussi que les choses aujourd'hui ont changé. On marque raison il y a quelques années, Denis Lass, Françoise Dolto, entre autres, revendiquent aujourd'hui leur foi. Psychanalyse et foi ne sont plus incompatibles. Donc, dans un premier temps, rappeler certains éléments qui constituent la vision de l'homme pour un psychanalyste. La psychanalyse propose un fonctionnement de l'être humain. Elle parle de la manière dont les différentes composantes s'articulent, s'animent ou dysfonctionnent. La psychanalyse ne dit rien de la finalité de cette mécanique. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Ce sont deux domaines qui sont différents, soyons clairs. Alors, là, les choses vont peut-être être un petit peu difficiles pour moi, parce que je ne sais pas quelle est votre connaissance de la psychanalyse. Donc, je me lance, et puis je pourrais revenir après sur certains éléments dans la discussion. Premier constat, là, c'est plus largement, c'est plus large que psychanalytique, l'homme est hétérogène. Il est constitué de deux composants radicalement différents, régis par des lois totalement différentes. Il y a d'une part un substrat biologique qui obéit aux lois de la biochimie et qui est l'expression de données contenues dans le code génétique. D'autre part, un substrat langagier, je veux dire des choses comme ça, dont la parole est l'élément le plus élaboré. Cette parole est constituée d'un vocabulaire, le dictionnaire, et elle est mise en œuvre à l'aide d'une syntaxe, d'une grammaire. À l'arrière-plan, nous trouvons aussi une combinaison entre des éléments très petits, ondes limitées, les lettres, en gros, qui génèrent une infinité de mots. De même que le code génétique permet une infinité de personnes. Donc, dans le corps, dans le corps du corps, on part des éléments de base en nombre très restreint, les quatre bases de l'ADN. Pour le code du langage, il y a les 26 lettres de notre alphabet. Parle de notre alphabet. On retrouve des alphabets différents, mais le principe est le même. Je laisse de côté le chinois, le japonais. À partir de ces éléments extrêmement simples, on passe par différents niveaux de complexité. Les molécules, les cellules, les organes, un corps d'un côté, de l'autre, des syllabes, des mots, des phrases, une pensée. Si on veut avoir un tableau plus complet de la pensée humaine, on va inclure la pensée inconsciente avec ses représentations et ses fantasmes. Ces deux constituants vont s'associer, s'imbriquer pour faire ce que nous sommes. Le désir qui nous anime, sont faits de biologique et de psychique indissociablement. Deuxième constat, deuxième élément d'hétérogénéité, et là je vais être plus psychanalytique, chacun de ces deux constituants est animé par deux forces mystérieuses. L'une qui tend à aller vers de plus en plus de liens, de plus en plus de complexité, une force qui va faire tenir ensemble cette complexité, c'est la vie. Il va y avoir, de l'autre côté, une force qui va aller en sens contraire, vers la déconstruction, la désorganisation, c'est la mort. Ces deux forces sont présentes sur le plan biologique, mais elles sont aussi présentes sur le plan psychique. Freud a parlé d'instinct de vie et d'instinct de mort. Eros et Thanatos. Quand on parle d'instinct de mort en psychanalyse, on ne pense pas tellement aux forces qui peuvent pousser un meurtrier à tuer sa victime, mais plutôt aux forces qui vont s'attaquer à la pensée et à la subjectivité de l'autre ou de soi-même. Il est là d'abord question plutôt de mort psychique. On va trouver ces éléments-là dans la perversion où chez le pervers, il y a comme objectif beaucoup plus que les préoccupations sexuelles d'annuler la subjectivité de l'autre, d'annuler sa différence. On retrouve ça aussi dans les toxicomanies, mais ça, beaucoup plus retourné par le sujet, sur lui-même. Troisième constat, l'homme n'est pas donné, il est à construire. Après 9 mois de gestation, le plus gros reste à faire, et ça va prendre une vingtaine d'années, pour arriver à un état physique et psychique à peu près stable. À peu près. Disons que les crises de l'âge adulte ne vont pas avoir l'impact, la dimension des crises et des remaniements de l'enfant. Ce développement se fait par une succession de crises, donc de moments de désorganisation et de moments de construction, de moments d'organisation. après la désorganisation que constitue la naissance, l'enfant va organiser un monde autour, d'une part, de la présence de sa mère et, d'autre part, de la partie de son corps qui est la plus importante pour lui à ce moment-là, sa bouche. Il va avoir une conception du monde autour de ça, qui va ensuite être mise à mal par l'intégration, par exemple, du développement musculaire. Et cette première conception du monde va être mise en brèche, et l'enfant va devoir reconstruire une autre conception du monde. Et ainsi de suite, les crises médiatiques dont on parle habituellement, ce sont le lit, et ensuite qui est repris au moment de l'adolescence. Aucune de ces organisations temporaires n'est oubliée, elles sont simplement mises à l'arrière-plan et recouvertes par une nouvelle conception du monde. Donc, les choses s'empilent comme les strates en archéologie. À l'âge adulte, on va utiliser, bien sûr, la couche la plus superficielle de cette construction, mais une position équilibrée nous permet aussi de repartir en arrière, et c'est en particulier ce que l'on va faire si on est face à des difficultés que nous avons du mal à résoudre, si notre système d'intégration des données d'aujourd'hui est dépassé, on va, dans un processus régressif, retourner vers les expériences du passé pour épuiser des éléments pour résoudre les questions qui se posent pour nous à l'heure actuelle. Nous sommes souvent dans ces mouvements d'aller-retour entre le présent et le passé. Les premières expériences que nous faisons sont donc primordiales. C'est celles qui constituent notre socle. Ce sont celles auxquelles nous reviendrons si nous sommes confrontés à des problèmes majeurs. La première de ces expériences, c'est la naissance. Et la naissance marque le passage d'un monde dans lequel il y a de la continuité qui est assurée par le cordon ombilical. Tout arrive, on continue, il n'y a pas de rupture, à un monde de discontinuité. Il va falloir respirer, il va falloir manger, il va falloir digérer. On ne pourra pas tout faire en même temps, il va falloir aller à la recherche des objets qui vont nous apporter des satisfactions et qui vont permettre à la machine biologique que nous constituons de fonctionner. Je préfère parler de continuité, parce qu'on parle volontiers de vécu fusionnel. C'est un terme qui me gêne parce qu'il n'y a jamais de fusion entre l'enfant et sa mère. Même quand l'enfant est dans l'utérus maternel, il constitue une entité autonome qui est en lien avec une autre entité autonome, sa mère. Un lien étroit, mais il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas une série d'enveloppes. Et il y a deux entités entre lesquelles il y a des échanges. À partir de la naissance, une modalité de ces échanges ne fonctionne plus, le cordon ombilical. On est obligé de passer à d'autres modes de relations. à partir de cette discontinuité, l'enfant va faire face à deux types d'expériences. D'une part, des expériences de satisfaction et de satiété. D'autre part, des expériences d'insatisfaction plus ou moins douloureuses et des moments de détresse. Et ces moments de détresse sont en général rattachés à l'absence de la mère. Il se met donc en place une association souffrance, discontinuité, non-perception de la mère. C'est dans ce creuset-là qui est négatif que se met en place ce que les psychanalystes appellent l'objet. L'objet est toujours d'ailleurs un sujet. L'autre, la perception, l'existence de l'autre, apparaît dans ce type d'expérience. Un parallèle. Vous êtes maintenant en train de respirer tranquillement, vous ne vous en aperceviez plus, vous m'écoutez. Vous n'avez pas à ce moment-là conscience qu'il y a une substance qui vous est extérieure, distincte de vous, et que vous inhalez. Si brusquement, chose horrible, je vous mets un sac en plastique sur la tête, vous allez vous rendre compte, alors, dans l'effroi, qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous manque cruellement, quelque chose que vous allez percevoir comme vital. Cet élément n'avait pas de perception, de statut d'existence avant. Il en acquiert une dans la perception de son absence, dans la perception du manque. Le mouvement de prise de conscience de l'existence, c'est un mouvement qui se fait dans le négatif. Le négatif, c'est aussi l'absence de la mère, et l'enfant va en vouloir terriblement à cette figure qui est la mère, qui est la mère absente. C'est ce que la raison pour laquelle les psychanalystes disent que l'objet naît dans la haine. Ce n'est pas l'amour qui est premier, c'est la haine. Mais pour l'enfant, penser qu'il y ait une même entité qui puisse lui vouloir à la fois, plus ou moins en même temps, du bien et du mal, c'est inconcevable, c'est impensable. Ça serait bien trop dangereux, ça serait bien trop angoissant. Ça se retrouve chez certaines personnes adultes après, c'est terrible. L'enfant va donc faire une opération, il va priver, il va séparer ces deux types d'expérience, et il va constituer donc d'une part une bonne mère, celle qui est présente, celle qui apporte des satisfactions, et une mauvaise mère, qui est essentiellement celle qui est absente. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les qualités effectives de la mère de l'enfant. Elle est là, elle s'occupe de lui, mais là, il y a une rupture de la continuité depuis la naissance, et donc la suite de cette rupture de la continuité, il y a donc la mise en place d'une bonne mère et d'une mauvaise mère. La bonne mère est, bien sûr, idéalisée, débarrassée de tous ces abstraits, de tous ces aspects frustrants, pénibles. La mauvaise mère, elle, est porteuse de tout ce qui est, ce qui représente une destruction. Bon, je parle d'hétérogénéité, de discontinuité, de clivage. Si vous ajoutez à ça que le petit enfant n'a pas du tout une perception de lui-même comme une totalité, une unité, eh bien, le risque que tout ça parte en morceaux est très, très présent. Il faut donc qu'il y ait notre expérience qui va amener un peu de cohérence, une enveloppe à cet enfant-là, une enveloppe psychique. Et là, je vais parler d'une expérience particulière que Lacan a formulée sous le nom d'expérience spéculaire, qui nous amène à constituer un « je ». Je laisse de côté le moi, le face sur moi, ça a d'autres fonctions, ça nous entraînerait trop loin. Cette expérience, c'est ce qui se passe quand un enfant découvre son image dans un miroir, sa mère étant à côté de lui. Il va établir un lien entre ce qu'il perçoit à ce moment-là, à travers son corps, plus ou moins unifié, avec l'image qu'il perçoit dans le miroir. Ce lien entre les deux nous apparaît tout à fait évident et loin de l'être. Pensez simplement que nous n'avons aucune perception visuelle directe de notre visage. Alors ailleurs, on voit le bout de notre nez. Mais en général, c'est pas très significatif. C'est la seule vision que nous avons de notre visage. Le miroir nous propose quelque chose. Nous avons besoin d'un tiers pour nous dire: celui que je regarde là maintenant, qui est en trois dimensions, que je porte dans mes bras, a quelque chose à voir avec cette image en deux dimensions qui est là, sur cet espace réfléchissant. Cette expérience de l'image dans le miroir, c'est le prototype de toutes les situations dans lesquelles nous aurons ensuite à dire « je ». Avec toutes les ambiguïtés de ce raccourci, cette image, c'est pour nous. Et cette image suppose la suspension de toute la conflictualité, l'ambivalence, l'hétérogénéité qui nous habite à ce moment-là. Je, c'est très pratique, mais c'est un leurre. C'est une instance à usage interne, ça nous permet de nous représenter à nous-mêmes, c'est une instance qui aussi nous permet de nous représenter vis-à-vis des autres. Cette expérience est marquée par le regard idéalisant de la mère à ce moment-là. Une mère ne peut pas regarder son enfant dans ces conditions-là autrement que comme quelqu'un d'idéal. Et ça va nous marquer. Bon, je vais m'arrêter là dans le développement, enfin dans le rappel de ce que je voulais vous dire sur la construction de l'être humain. Je n'ai pas parlé de différenciation sexuelle, je ne parle pas de complexe d'Œdipe. Nous n'en aurons pas besoin pour la suite de mon exposé. Ce qui veut dire que je vais me fonder sur des éléments qui sont quand même très, très archaïques. Le messianisme renvoie à des choses qui sont très archaïques, assez archaïques. Je vais maintenant essayer de fonctionner devant vous comme un psychanalyste devant un matériel. Que ce soit le matériel amené par un patient dans le cadre d'une séance, que ce soit une œuvre d'art, une production littéraire, le phénomène religieux. Nous allons, le psychanalyste est amené à s'intéresser à différents éléments qui ne sont peut-être pas ceux que d'autres personnes vont mettre au premier plan. Et on va essayer, à travers de cette démarche, d'accéder à une autre réalité, une autre lecture des phénomènes. Quand on parle de messianisme, de messie, il est question de croyance, de l'adhésion à l'idée de la venue d'un sauveur d'un autre monde. On est à ce moment-là en dehors d'un processus rationnel. La rationalité, c'est plutôt le monde dans lequel nous vivons avec ces conflits, ces catastrophes, etc. Le Messie, c'est un basculement dont il faut croire que autre chose existe. Cette croyance, c'est un processus mental particulier. C'est un lien immédiat, fort, sans médiateur, avec un sujet, une idée. Ce n'est pas un lien qui est construit, élaboré. Et ça renvoie aux premières expériences de séparation avec la mère, avec les parents. Quand sa mère s'absente, un enfant a besoin de croire qu'elle va revenir. Au début, il est incapable d'imaginer qu'elle est dans la pièce à côté, il est incapable d'imaginer qu'elle est en train de s'occuper de quelqu'un d'autre, qu'elle va parcourir un certain trajet et puis qu'ensuite elle va lui revenir. Ça, au début, c'est trop compliqué, ça viendra après. Dans un premier temps, il faut qu'il puisse établir dans une conviction magique que sa mère va revenir. Contre toute évidence, puisque maintenant elle n'est pas là, mais elle va revenir. Cette conviction va lui permettre de ne pas s'effondrer. On peut dire qu'il y a trois étapes dans l'évolution de cette conviction. Une première étape dans laquelle cette conviction est installée. Les parents s'absentent et ils reviennent au bout d'un certain temps, un temps relativement court. L'enfant va jouer au moment de son retour, il va jouer de ce retour, il va partir, se cacher, revenir, se jeter dans les bras de ses parents. Quand il disparaît, il reprend d'une manière active ce qu'il vient de subir, lui-même dans la disparition des parents. Deuxième étape possible, un imprévu se produit. Les parents rentrent plus tard que prévu. La conviction que l'enfant a placée dans le retour de ses parents est ébranlée. Et s'installe l'inquiétude. Il va pleurer. Il va se trouver dans un mouvement qu'on va qualifier rapidement de dépressif, lié à la perte d'un objet. Quand les parents reviennent, il va falloir restaurer ce lien avec lui. En lui parlant, pour le calmer, on va le consoler. Et il va falloir un certain temps pour restaurer ce lien qui a été ébranlé. Troisième étape possible, les parents n'arrivent toujours pas. L'attente se prolonge. Eh bien, il arrive un moment où l'enfant n'attend plus. La conviction qu'il avait dans le retour de ses, parents s'effondre. Et lui-même s'effondre aussi. Cette situation est heureusement rare. Mais à ce moment, on voit des enfants qui ne pleurent plus, qui se retirent dans l'apathie, qu'ils ne réagissent plus à la présence de qui que ce soit. Ces enfants peuvent cesser de s'alimenter. S'ils ne reçoivent pas de soins adaptés, ils peuvent mourir. Ils ont perdu la croyance dans la continuité de leur relation avec la mère, les parents. Ces mouvements que j'écris par rapport à l'enfant sont aussi des mouvements qui peuvent être vécus dans des situations qui peuvent être vécues collectivement, dans des situations catastrophiques, des situations de guerre, et Israël n'en a pas manqué. Quand cette conviction du retour, de la permanence de l'autre est ébranlée, on va mettre en place des mécanismes de protection et de réparation. La croyance dans la venue d'un Messie, c'est pour moi un processus qui est en lien avec les deuxième et troisième étapes dont je viens de parler, vécues dans des groupes, vécues à travers un peuple. En parlant de la croyance dans le retour ou la venue du Messie, j'ai abordé un autre thème que va relever un psychanalyste, l'attente. C'est une attente qui est particulière. Dans l'attente du Messie, je pense à grand-chose. Tout dépend de lui. C'est lui qui décide du moment où il viendra. On se retrouve dans une position de passivité, un sentiment d'impuissance, comme l'enfant par rapport au retour de ses parents. Je reviens à la deuxième phase de l'attente dont je parlais, celle où l'anxiété apparaît. Pour essayer d'endiguer, limiter son anxiété, ça c'est quelque chose qui est propre à l'humain, il faut donner du sens aux choses. Si les choses sont compréhensibles, ça va beaucoup mieux. On ne supporte pas l'incohérence, ce qui est dépourvu de sens. Papa, maman ne sont pas là. Ils m'ont peut-être abandonné. Il faut que je trouve une raison à cela. Et comme l'enfant pense les choses d'abord par rapport à lui, eh bien, il va penser que si maman n'est pas là, c'est parce qu'il a dû faire quelque chose qui lui a déplu. Et l'absence devient une sanction. Une sanction qui peut préfigurer une sanction encore plus grave, l'abandon. Pour un nourrisson, l'abandon, c'est la mort. Et le nourrisson vit ces choses-là. Ces enjeux sont là pour lui. L'attente devenue anxieuse se remplit de culpabilité. Si Dieu ne répond pas à mon appel, c'est que le peuple d'Israël a dû faire quelque chose qui lui a déplu. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'on a pu faire de mal. Hein. L'enfant ne le sait pas. La culpabilité précède la conscience de la faute. Il y a des renversements comme ça. Alors, dans l'expectative, eh bien, il y a une chose que je peux faire, c'est me punir moi-même, me mortifier. Peut-être que maman l'apprendra et qu'elle verra que je me mets dans une position de soumission par rapport à elle et qu'elle prendra pitié. Je vous rappelle des choses. C'est la même chose au tout petit enfant et par rapport au Messie. Alors, autre activité pendant l'attente, quand l'enfant, j'exclus un peu la troisième partie, parce que là, on est dans la sidération de la pensée, ce sont des choses beaucoup plus compliquées à récupérer. Mais dans l'attente, pour se protéger, pour être moins inquiet, moins désorganisé, eh bien l'enfant va essayer d'anticiper le retour de maman. Alors ça sera une fête, bien sûr, oui, mais après, on s'aperçoit que notre capacité à imaginer l'avenir est extrêmement limitée. Si on prend les paramètres de la société actuelle et qu'on cherche à les projeter dans l'avenir, on a vu qu'il très vite à des prédictions tout à fait hasardeuses. Est-ce qu'on pouvait imaginer il y a 50 ans le rôle de l'ordinateur aujourd'hui? Absolument pas. En fait, l'avenir, on ne peut pas l'imaginer au-delà de quelque chose qui est très, très bref. Et le bref, c'est ça continue comme maintenant, c'est-à-dire maman n'est toujours pas là. Donc nous allons, pour imaginer un avenir qui nous donne un peu de repos, eh bien nous allons retourner en arrière pour y chercher des éléments qui ont été des moments de satisfaction, des moments de complétude, des moments de présence. Le paradis que nous espérons pour demain ou après-demain, en fait, il est à l'image de celui que nous avons perdu. Quand nous pensons regarder devant, en réalité, on regarde derrière. Et plus les difficultés s'accumulent, plus elles se prolongent, plus on va opérer un basculement de l'autre côté, plus on va idéaliser un avenir où il y aura enfin plus de guerre, où on sera en paix, où on trouvera le repos. Les situations que nous projetons dans l'avenir sont des situations idéales. Encore un autre élément, la temporalité de l'espérance messienne. C'est une temporalité particulière. Elle est à la fois renvoyée à un futur toujours reporté, elle peut aussi très bien se réaliser demain. C'est une réalisation qui n'a rien à voir, qui n'a pas de lien avec l'écoulement du temps historique, du temps chronologique, jour après jour. Ce n'est pas l'aboutissement d'une démarche, c'est quelque chose qui est un nouvel état du monde, qui advient, qui surgit sans transition. Comme le retour de la mère qui ouvre la porte, ça y est, on bascule de l'attente, de l'inquiétude, du manque dans la présence. Alors, l'avènement du Messie est imprévisible, enfin, pas tout à fait. Il y aura des signes annonciateurs. Mais, paradoxalement, la vue du Messie n'est pas présenté comme quelque chose qui ferait suite à une lente amélioration de notre condition. Qui serait ça, c'est situé par rapport à une chronologie rationnelle. Ce n'est pas l'aboutissement d'une amélioration. Au contraire, la vue du Messie est précédée de bouleversements chaotiques, catastrophique. C'est l'apocalypse. Là, on n'est pas dans une organisation du temps qui est le temps conscient, qui est le temps de l'horloge. On est dans le temps de l'inconscient. Il n'y a plus de durée. Le temps peut s'étirer dans l'éternité ou s'abréger dans l'instant. Il n'y a plus d'ordre chronologique. C'est le temps du rêve. Dans le rêve, vous avez pu savoir, à ce moment-là, vous n'avez plus dans le rêve, mais dans le cauchemar, des situations qui sont complètement figées. Vous marchez, mais vous n'avancez pas. Il y a bien sûr quelqu'un derrière qui vous poursuit. Le temps, le mouvement est suspendu. Ça, c'est le temps du rêve. Et on peut basculer dans autre chose quand on se réveille. Dans le rêve, il y a aussi très souvent des images d'un passé récent, d'un passé ancien, de l'enfance. Tout est mélangé. Les personnages sont à la fois jeunes ou vieux. Le temps de l'attente messianique est en lien avec ce temps-là. Ce temps, c'est celui aussi de la répétition, et j'ajouterai la répétition traumatique. Nous sommes habités par une force inconsciente qui nous pousse à répéter, à rejouer plus ou moins inlassablement toutes les situations que nous n'avons pas intégrées. Quand les choses se passent bien, à chaque fois que nous répétons quelque chose, nous en acquérons une nouvelle maturité et ça permet progressivement de passer à autre chose. Mais quand on est dans une situation traumatique, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'abord, éventuellement pendant un long temps, une répétition à l'identique du film, de l'événement qui a causé le traumatisme. Les gens voient continuellement défiler dans leur espace mental pendant toute la journée l'accident, le viol, et avec une intensité émotionnelle qui est la même que celle qu'ils ont éprouvée au moment où le phénomène a surgi. On va voir une transformation quand les personnes vont se mettre à faire la même scène, mais en rêve. C'est un cauchemar. Et bien, le bénéfice n'était pas très important. En fait, si, il marque une profonde transformation dans le mouvement psychique. Ça montre que le psychisme, qui jusqu'à ce moment-là était complètement sidéré, retrouve sa capacité à digérer, à intégrer les choses. Je vois l'apocalypse comme un cauchemar post-traumatique. Un cauchemar qui renverrait à des événements vécus, terribles, de l'histoire d'Israël. Ces événements-là n'ont pas manqué. Ces événements ont pu, dans une certaine mesure, être refoulés, renvoyés dans l'inconscient, et là, ils se sont trouvés au contact avec des fantasmes inconscients, et c'est ce qui va donner l'aspect fantastique au récit de l'Apocalypse. Et on va reprendre le récit de l'Apocalypse comme un cauchemar qui projetterait dans l'avenir des situations extrêmement traumatisantes du passé. Seulement, on va se réveiller de ce cauchemar. Il va y avoir les trompettes du jugement dernier. Le réveil va sonner. Et à ce moment-là, on sort du vécu cauchemardesque pour pénétrer dans un monde imaginaire qui, lui, va être comme le monde du rêve, va représenter la satisfaction de nos désirs les plus profonds, avec, d'un côté, nous allons être vengés de tous ceux qui nous ont fait mal. Alors, hein, il y en a, c'est tout le petit frère du tien. Et nos bienfaits vont enfin être reconnus et nous allons nous retrouver à la table de papa et maman à côté. Dernier élément que je vais pointer, ce sont les phénomènes d'idéalisation du mystique. Idéalisation du monde qu'il annonce, idéalisation du personnage. Le monde qu'il annonce, c'est un monde dans lequel toutes les tensions sont abolies. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence de classe, de génération, de sexe. Les contraires cohabitent. L'agressivité est exclue. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. On ne fera plus de mal ni de ravage sur toute ma montagne. Ce monde évoque, bien sûr, pour moi, le monde idéalisé de l'enfance. Un monde sans tension. Un monde avant la rupture du cordon ombilical. Ces sensations passées, nous les projetons dans l'avenir et nous souhaitons leur retour dans un futur hors du temps. Le personnage du Messie. La question est un peu plus complexe. Il est du côté de la perfection, lui aussi, de l'idéal. Il est dégagé de la faute originelle, il n'a pas l'ambivalence, il est saint. Il est pourvu de la toute-puissance, il est celui qui sauve, qui, d'un geste, d'une parole, guérit, ressuscite, celui qui a planté les montagnes. Voilà bien une figure de l'idéal et de la toute-puissance. Donc, l'enfant s'imagine pourvu, de par les capacités de son imagination est sans limite, et d'autre part, cet idéal est projeté sur les parents, qui, lui, dans son sentiment d'incapacité, d'immaturité, d'impuissance, imagine que les adultes, eux, peuvent tout faire. Et il regarde ces adultes avec un regard plein d'admiration, de fascination, d'adoration. Le Messie se présente comme un personnage à identifier, un pôle d'identification, mais contrairement aux parents, qui, lui, se présente bien sûr comme un pôle d'identification, mais un pôle d'identification à atteindre et voire à dépasser, le Messie, lui, est inatteignable. J'ai parlé du Père. Le Messie ne se présente pas comme un Père porteur d'une loi, de règles, qui organise une famille, comme porteur d'une loi, le Père étant lui-même soumis aux règles qu'il énonce. Il n'est pas non plus un père qui prononce des sanctions adaptées, modulées. Tu ne verras pas la télé ce soir. C'est frustrant sur le moment, c'est pas vital. Non, le Messie est la loi. C'est lui qui est la loi. Et la sanction est binaire. Soit tu viens me rejoindre dans la félicité éternelle, soit tu es rejeté dans les ténèbres extérieures. on n'est pas là avec un personnage qu'ensuite on va qualifier nous de surmoïque. On est avec là avec un personnage beaucoup plus archaïque qui combine des éléments paternels et maternels. Il a tous les attributs. On est du côté d'un fantasme d'une mère archaïque. Par rapport à ce que je viens de vous dire, la figure du Christ est paradoxale. Parce que il est bien sûr, lui, pourvu de tous les attributs dont je viens de parler, la puissance, la gloire, mais il y a Noël et Pâques. Dans le même temps, il se montre dans la détresse extrême, du nourrisson et celle du condamné à mort. Il réunit les extrêmes. Il réunit les pôles au principe inconciliable. Alors, c'est le mystère de l'Évangile de proposer à notre foi une représentation complexe comme celle-là, mais on peut penser que c'est aussi une représentation passerelle intermédiaire qui nous permet de penser. Nous avons besoin de penser, nous avons besoin d'avoir des représentations qui nous permettent de penser quelque chose qui autrement serait informulable. J'ai essayé de repérer certains axes. J'aimerais maintenant les articuler pour dégager ce que j'appellerais des fonctions du messianisme. Ça n'a rien à voir avec la lecture qu'on peut en faire au premier degré. Je propose une lecture sur un autre plan. La pensée messianique a un rôle, une efficacité, à certains moments historiques et dans certains groupes sociaux. À ce moment-là, je mets du côté des mythes, des idéologies qui sont la forme contemporaine des mythes, des contes que l'on raconte aux enfants. Ce sont des temps d'élaboration de la pensée individuelle et collective. Le messianisme, je le qualifierais dans un premier temps de processus antidépresseur. La dépression n'est pas la tristesse. Face à la perte d'un être aimé, nous sommes tristes. Mais nous allons nous engager dans un travail de deuil pour désinvestir la réalité de la personne que nous aimions, qui n'est plus là. Nous désinvestissons cette réalité. Nous allons d'une part investir nos souvenirs de cette personne et progressivement investir d'autres personnes, d'autres éléments qui vont venir remplir notre vie. Ce processus est possible dans la mesure où dans la réalité, il y a des éléments qui peuvent prendre le relais sur le plan de la satisfaction. Si la réalité ne comporte pas suffisamment d'éléments de satisfaction, ça peut être dans des situations de carence infantile, mais c'est aussi dans des situations tragiques de guerre, de conflit. À ce moment-là, on ne peut pas Dans le processus de deuil, investir des éléments de l'ordre de la réalité. On va donc investir des éléments imaginaires. La figure, les figures des messies. Bon, il y a des messies religieux, il y a des messies laïques. Et on va mobiliser notre énergie autour de ce lien nouveau, réparateur, avec une idée. C'est ce qu'on va retrouver dans tout le militantisme. Et, en général, l'énergie mise à militer est proportionnelle à la proximité du risque dépressif. Le messianisme comme processus antitraumatique. La dépression, c'est déjà une forme de désorganisation parce qu'il y a l'installation d'un sentiment important de perte qui bloque les réinvestissements. Mais c'est malgré tout une forme d'organisation. Il y a des situations qui sont encore plus tragiques, les deuils à répétition, les carences affectives et matérielles. Si, en plus, il y a des fragilités dans la construction de la personne, ou si le groupe se trouve ébranlé dans ses fondements, le processus dépressif ne peut même pas se mettre en place et il y a une désorganisation majeure qui se met en place. Il va falloir faire appel à ce moment-là à des processus d'une intensité particulière pour entraver ce mouvement de désorganisation. L'idéalisation, oui, à ce moment-là, une idéalisation qui ne souffre aucun compromis, qui devient du fanatisme, l'autre qui est le support des projections négatives, la mauvaise mère, dont je parlais tout à l'heure, doit non seulement être rejeté, il doit être détruit, et la passion, l'action prend le pas sur la pensée. C'est pour moi un processus comme celui-là qui a donné naissance aux croisades. Quand on est dans le champ du traumatique, ce mouvement qui, par certains côtés, va permettre de lutter, d'endiguer la désorganisation, c'est aussi et permettre la survie, c'est un mouvement qui peut s'emballer, et au contraire, aboutir à des conduites qui vont mettre la personne dans encore plus de difficultés. Regardez ce qui s'est passé pour les croisades. Elles se sont plus ou moins enlisées et le nombre de personnes qui y ont survécu était extrêmement limité. C'est un processus également dans lequel l'idéologie, l'idéalisation peut prendre le pas sur la survie même du sujet. C'est le martyr qui se sacrifie à sa cause. Là, je ne parle pas en termes de valeur, je parle en termes de mécanisme mental. Alors, j'ai parlé du messianisme comme un mouvement de pensée qui permet de faire face à des crises de degrés divers. Il me semble que c'est aussi un mouvement beaucoup plus constant qui nous parle d'une réalité humaine. C'est comme d'autres mythes nous parlent de ce que nous sommes et tentent d'apporter des solutions aux énigmes de notre existence. Nous devons donner un sens à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. C'est une exigence de notre pensée. La Genèse, c'est une manière de penser l'origine de notre condition humaine. De la glaise sur laquelle souffle l'esprit, et voilà l'hétérogénéité de départ dont je parlais tout à l'heure. Il faut expliquer, rendre compte le sentiment de l'unité primordiale perdue, du passage de l'absence de tension de la vie ultra-utérine à le monde de discontinuité, de frustration, mais aussi de satisfaction, après la naissance. Voilà l'homme chassé du paradis. Il faut donner une raison à ce passage d'une situation confortable à l'inconfort de la vie quotidienne. Et, la vie quotidienne de nos ancêtres n'était pas toujours facile. Voilà l'idée de faute qui arrive et le sentiment de culpabilité. Le même dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'enfant qui se sent abandonné, désinvesti par sa mère. Bon, je passe à certaines choses. Ce sentiment de culpabilité qui est très présent dans toute la tradition judéo-chrétienne n'est pas présent dans d'autres mythes fondateurs. Chez les Grecs, par exemple. On peut s'interroger. La Genèse, c'est une pensée du point de départ qui est centrée sur la séparation, la faute, le labeur. Cette pensée du départ appelle une pensée de la fin. Et on la retrouve d'une part dans l'idée du jugement, l'idée du jugement qui va venir clore la question de la culpabilité. Le séjour dans le paradis sera l'exact contraire du monde après la chute. On va se retrouver à ce moment-là à nouveau sous le regard aimant, Dieu, la mère, et avec un intense sentiment de jubilation, la jubilation de l'enfant sur les bras de sa mère, devant le miroir, le paradis, c'est aussi ça. Je m'arrêtais là dans ce travail de décapage où je me suis efforcé de pointer de l'humain, de l'archaïque, dans la démarche messianique. Nous sommes constitués de plusieurs couches, de plusieurs strates, notre réalité humaine s'exprime à travers ces couches-là. Nous avons besoin de ces organisateurs fondamentaux de notre psychisme. Pour moi, s'intéresser au passé, ça ne m'empêche nullement de vivre au présent et de vivre ce présent aussi au premier degré. Ce que j'ai dit du messianisme n'est absolument pas pour moi antinomique d'une foi vécue. Ça serait plutôt une invitation à la prudence par rapport à nos propres pensées pour nous éviter de nous laisser entraîner dans des dérives, vers toute forme de fanatisme. Comment croire dans ce contexte-là? Moi, je pense que toute croyance, toute foi a quelque chose d'informulable. On est comme avec un oignon, nous enlevons des couches, et c'est important d'enlever des couches à la recherche d'un cœur qui nous échappe continuellement. Nous n'avons pas d'autre manière de faire pour parler d'une réalité qui nous dépasse. Je vais m'arrêter là. Je pourrais développer, en fonction de vos questions, d'autres éléments, faire un parallèle entre la démarche de foi et le processus de la cure. Mais merci de votre attention.
Cette chose qui nous dépasse, comme vous dites, parce qu'effectivement, c'est dans une dimension dont on a du mal à parler, je trouve que vous avez très bien fait parler cela à travers l'humain, en toutes ces comparaisons qu'on peut faire, et je pense que là, il y aura certainement des questions à poser. J'ai retrouvé beaucoup de choses par rapport aux textes bibliques. Dans des descriptions du jeu, et par exemple du néant, ou en hébreu, ce sont les mêmes lettres, Aïe et Aïe. Mais le néant n'est pas non plus le plus profond, ça peut être aussi quelque chose de vaste et de lumière peut-être, mais positivement, que le jeu en même temps. Alors il y a tout un travail.
Des aspects contradictoires, des définitions pour nous.
Oui. Oui. Et beaucoup de choses comme ça que j'ai repérées dans ce que vous disiez. Bon, je pense qu'il y a des questions. Je vais faire passer le micro avant que vous parliez bien fort.
Non, non,
je
vais
passer le micro. Alors, je vais passer le micro.
Pour comprendre la réponse, on prend des questions.
Alors, qui désire parler? Et c'est bien difficile de parler après vous.
En général, il faut un certain temps pour digérer, puis après ça vient.
Peut-être pas des questions, mais des impressions. Oui, Marie-Louise. Soudain, je me dis que L'attente du Messie pour ceux ou celles qui l'attendent encore, et nous qui croyons qu'il est venu, ne serait-ce pas une utopie? Mais c'est mal dit, mais ça m'est venu comme ça. Cette utopie de... On a besoin d'un Messie pour se rassurer. J'en dis pas, parce que...
Oui, c'est effectivement ce que j'ai voulu développer. Le Messie, c'est entre autres une figure qui nous rassure. Comme toutes les utopies, comme tous les espoirs, on peut y voir une fonction rassurante, tout à fait humaine. On peut aussi penser qu'à travers cette formulation des choses, il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse, qu'on ne va pas pouvoir formuler avec d'autres mots.
Oui, moi je comprends tout à fait qu'on puisse... avoir le questionnement de Marie-Lou, mais avec ma foi illuminée, illuminée au sens d'être illuminé, pas lumineux, je peux penser aussi que, donc ma foi de croyant, je peux penser aussi que Dieu nous ayant créés connaît toute notre complexité. Et il a prévu justement cette conception, ce Messie, pour répondre à cette angoisse existentielle. Donc pour moi, ça n'est pas une utopie. C'est alors peut-être que c'est utopique, mais pour moi, ce n'est pas une utopie. Ça fait partie du plan de Dieu, du projet de Dieu, qui sait combien on est complexe, combien on est fragile. Vous l'avez brillamment illustré sous divers aspects, et je crois qu'il nous a proposé, enfin ma foi de croyant me fait dire qu'il nous a proposé le messianisme pour répondre favorablement à cette angoisse. Moi, je vois pas du tout une construction purement humaine et un peu péril.
Ce que vous venez de dire, c'est la différence entre le croyant et le psychanalyste. Le psychanalyste pourrait par ailleurs être aussi croyant. Hein. Mais on va regarder le Messie comme étant quelque chose qui nous est envoyé, que nous avons à recevoir. Là, nous sommes dans une démarche de foi. On peut voir les choses du côté de la mécanique humaine, et à ce moment-là, on rapproche les éléments qu'on retrouve dans ce fonctionnement-là, on peut le rapprocher d'autres utopies. Utopie à pourquoi pas aussi des utopies politiques, enfin, c'est tout à fait quelque chose d'acceptable. Mais si on se place sur le plan de la mécanique psychique, ce sont les mêmes ressorts, ce sont les mêmes fonctionnements. J'ai simplement voulu, en tant que psychanalyste, insister sur cet aspect, là. Nous sommes dans un terreau dont nous ne pouvons pas sortir. Les mots que nous utilisons sont enracinés dans notre expérience individuelle, dans nos expériences collectives, dans notre corps, on ne peut pas en sortir. Alors, on va utiliser les mots en étant conscient que ce sont des approximations qui permettent de cerner un peu une réalité complexe et profondément humaine.
Est-ce que ces mots qui nous aident effectivement à comprendre notre réalité, notre vécu, dans la pure analytique ou sous d'autres formes, ne nous permettent-ils pas de nous libérer de ces traumatismes, des difficultés, et nous faire accéder à une dimension de conscience qui va faire que peut-être, dans le monde libéral juif, on ne parle pas beaucoup d'une figure de Messie, mais que c'est en chacun de nous. Même Lévinas, là, le disait peut-être par le regard, la compréhension de la souffrance de l'autre, mais encore faut-il savoir ce qu'est la souffrance et peut-être connaître la sienne. À ce moment-là, on est Messie soi-même. Et effectivement, donc chez les libéraux juifs, il est dit que c'est nous, par nos comportements, qui aurons cette dimension messianique qui fera qu'il y aura le changement, justement, dans le monde. Est-ce une utopie? Ou est-ce que finalement, que ce soit la cure analytique, que ce soit sous d'autres formes d'expression de l'humain, peut-être la forme artistique, enfin, énormément de possibilités de se dire à ce moment-là, nous nous améliorons, et si nous nous améliorons, nous dépassons tous ces clivages, nous les transformons pour pouvoir accéder à un comportement meilleur, et si ce comportement meilleur amène l'autre à être meilleur, etc. J'avoue que je crois beaucoup en cela. C'est peut-être une utopie aussi, mais j'y crois parce que ça correspond peut-être plus à quelque chose dans notre réalité de notre siècle et de l'évolution de la conscience. Même s'il y a des choses très graves qui se passent, et on sait aussi que pour le peuple juif, à chaque fois qu'il y a eu des choses terriblement graves, et peut-être pas là au niveau de ce qui s'est passé pour la Shoah, mais il y a eu comme un besoin de messianisme. Mais ce qui s'est passé pour la Shoah, il y a eu Israël qui a été créé. Je ne me permets pas de dire qu'il y a un lien. Je ne me permets pas. Mais on peut l'imaginer et on peut penser en tout cas que c'est une aide fondamentale qui a permis une espérance. Donc comme quelque chose de messianique en soi. De transformation. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des grands traumatismes dans le peuple juif, il y a eu ce besoin, et comme si le Messie arrivait, il y avait cela, oui. D'ailleurs, le professeur Bannon nous parlera de ça, du Messie après l'expulsion des Juifs d'Espagne, le 13 mai. Donc, on retrouve cela. Alors là, il y a deux... J'ai parlé de deux choses différentes. Que pensez-vous de cela, de la première chose?
Je ne sais pas dans quelle ordre je vais répondre. Bon, d'abord, je pense qu'il y a un lien historique entre la Shoah et la création d'Israël. Il y a un sentiment de culpabilité des démocraties occidentales qui amène à la création de l'État d'Israël. Bon. Vous avez parlé de la dimension intérieure du Messie. Alors, là, on se rapproche plus de la démarche analytique, qui est une démarche dans laquelle il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre deux personnes, entre deux appareils psychiques. Rencontre faite d'aléatoire, de surprise, une rencontre dans laquelle je dois justement ne pas me prendre pour le Messie. Il y a des patients qui nous poussent à ça. Vous êtes celui qui va me guérir, celui qui va me faire sortir de tous mes ennuis, et vous êtes pourvu d'une baguette magique qui va solutionner tous mes problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je peux être sur l'autre versant, le méchant qui justement n'apporte pas la solution à tous les problèmes. Je suis du côté de la mauvaise mère. Je vais essayer de m'extraire de toutes ces projections du patient, que le patient fait sur moi, sans me prendre au jeu. C'est ce qu'on appelle le travail du contre-transfert, pour permettre au patient, à lui, de nouer avec moi, de répéter avec moi les conflits, les situations qui se sont nouées d'une manière douloureuse pour lui autrefois. Et progressivement, par un travail de prise de conscience, par un travail de mise en mouvement de l'ensemble de l'appareil psychique, on va se dégager de ça. Alors, on va se dégager d'une représentation, d'un nœud, pour passer à un autre nœud, qui va à nouveau falloir patiemment défaire, et ainsi de suite. Et progressivement, il va se dégager, pour le patient, sentiment qui est à ce moment-là partagé par l'analyste, quelque chose de plus authentique de la part du patient. Mais c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est éprouvé, c'est « je me sens plus moi-même » et « je me sens plus libre par rapport à ce que je suis ». Quand on patient on est là, l'analyse est terminée. Mais c'est tout un travail pour en arriver là, il faut éplucher, enlever des couches, et je pense que ça a quelque chose à voir avec le Messie en nous dont vous parlez. Il y a quelque chose qui me gêne dans la formulation que vous avez utilisée ensuite. Je ne me souviens plus des termes que vous avez utilisés, comme s'il fallait se dégager de ça. Je ne pense pas qu'on s'en dégage. On va au contraire de plus en plus au cœur des choses. Au plus en plus dedans. C'est au cœur de ce que nous sommes que nous allons pouvoir avoir l'intuition d'autre chose. Je ne suis pas d'accord avec une présentation de l'homme qui en ferait un corps d'un côté et un esprit de l'autre. Et l'esprit serait du côté du divin. Et il faudrait tirer l'homme du côté du divin, et de préférence, et c'est le corps de l'autre côté. Non. Nous sommes un corps et un esprit. Et c'est au cœur de ça que nous allons, pouvoir éventuellement dépasser certaines choses. C'est pas en nous étirant, en essayant de mettre les pieds le plus profond possible dans le sol et la tête du côté des nuages, non, c'est en nous rassemblant. Ça me fait penser à la première encyclique de Benoît XVI, dans laquelle il parle de l'amour. J'en ai lu des extraits il y a quelques temps, que j'ai amené. Il dit, Benoît XVI, donc, l'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se trouvent dans une profonde unité. Le défi de l'éros est vraiment surmonté lorsque cette unification est réussie. Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veut refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que n'importe quel psychanalyste peut adhérer à cette idée-là. Mais je suis extrêmement gêné quand il ajoute que ça doit se faire dans le renoncement, le sacrifice. Qu'il faut sortir de l'éros pour aller, il faut guérir l'éros pour aller vers la gâté, la tendresse, la paix. Là, moi, je suis extrêmement gêné. Pour moi, on ne sort pas d'éros. L'agapé, c'est soit une représentation provisoire, utopique, pour imaginer, dans l'imaginaire, retrouver une complétude, une paix, une sérénité. C'est un fantasme de retour intra-utérin, mais l'agapé, tel que c'est présenté, c'est comme l'abolition de toute tension. Eh bien, l'abolition de toute tension, c'est la mort, ou le retour effectif, intra-utérin. C'est une perspective incestueuse. L'agapé, c'est du côté de la mort ou de la folie.
Je reviens un peu sur tout ce qu'on a dit sur le messianisme. D'abord, ce que vous dites, en effet, le corps et l'âme, c'est une notion grecque. La Bible, il n'y a pas le corps et l'âme. La Bible ne dira pas « j'ai un corps », nous disons. Elle dit « je suis un corps ». Donc, c'est l'être tout entier. Et d'ailleurs, dans la tradition de la Bible, d'Israël, dans l'espérance d'Israël, comme dans l'espérance chrétienne, c'est la résurrection des corps. Et la résurrection des corps, c'est l'être tout entier. Et Paul parlera, lui, de corps spirituel, c'est-à-dire de l'homme, de corps qui atteint sa pleine liberté. Je trouve que ça, quand on parle de spirituel, c'est la pleine liberté. Ensuite, je voudrais dire aussi que, parlant de messianisme, il ne faut jamais oublier que dans la Bible, soit en Israël, soit dans le christianisme, c'est un Dieu engagé avec nous. C'est un Dieu engagé dans l'histoire. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'histoire. Alors nous ne pouvons pas parler de messianisme sans dire que ce Dieu vit avec nous tous les événements de l'histoire. Et donc qu'il y a un projet dans cette histoire, hein, pour la réussite de l'homme et pour la réussite de l'histoire. Alors ça, c'est important aussi que nous ne voyons pas le messianisme comme une réponse de Dieu d'en haut, hein, à toutes vos angoisses humaines, etc. Hein, mais je suis avec vous, je vous ai appelé à la vie, et je suis avec vous dans tout cet engagement d'être. C'est bien quand Israël j'arrive à cet aspect que les souffrances d'Israël sont les souffrances de Dieu et que Dieu vit profondément ce qu'Israël vit. De même aussi, non, l'évangile. D'ailleurs, si on prend le chapitre 25 de Matthieu, qui parle justement du jugement dernier, hein, tel qu'on le portait à l'époque, hein, qu'on va pouvoir expliquer ce que ça veut dire, le jugement dernier, hein, c'est important. Eh bien, il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, entouré des anges, il montre tout ça, puis ensuite il dit, il vous dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il ne dit pas, regardez ma gloire. Ma gloire, elle était engagée avec l'homme. Elle est engagée avec l'homme. Il ne dit pas, vous avez donné à manger à ceux qui ont faim. Il dit, j'avais faim. Il ne dit pas, vous avez donné le vêtement à celui qui n'en avait pas, où j'étais. Non. J'étais sans vêtements, j'étais en prison, j'étais malade. Donc ça veut dire que Dieu accompagne tous nos espoirs humains et que cette espérance de Dieu ne vient pas d'en haut, comme cela. D'ailleurs, dans toute la Bible, la révélation, elle vient d'en bas, elle ne vient pas d'en haut. Hein, si on découvre Dieu qui s'est engagé pour la libération d'Israël, etc. Donc là, il me semble que c'est très important de parler du messianisme, mais on ne peut pas le séparer du Dieu qui est engagé dans l'histoire. Et qu'il accompagne profondément l'homme dans sa propre histoire. Hein, et qu'il est engagé avec l'homme dans l'histoire. Dieu n'appelle pas Israël sans s'engager avec lui. Et Dieu, pour nous chrétiens, Dieu n'appelle pas l'homme à la vie sans devenir lui-même homme. C'est-à-dire, ce n'est pas des rapports de, je veux dire, de fabricant à fabriqué, ou d'artisan à objet, c'est des rapports profonds de communion de Dieu avec l'homme. Alors, c'est pour ça que pour moi, le messianisme est très engagé dans cet engagement de Dieu avec l'homme.
Je vous remercie les précisions que vous avez apportées. Mais je crois qu'on peut toujours faire une double lecture des choses et que l'une n'exclut pas l'autre. Et que moi, je ne tiens pas à vous convaincre de ce qui serait ma vision des choses. J'ai dit que ça, c'est en fait une partie de ma vision des choses. Je prends les choses sous un certain axe. Vous rappelez que Dieu est engagé aux côtés de l'homme, mais les parents sont engagés aux côtés de l'enfant. Et combien de fois dit-on notre Père? Quand on dit notre Père, c'est une manière d'exprimer ce que Dieu est pour nous. Mais en même temps, nous utilisons un mot, un signifiant, qui est profondément enraciné dans notre réalité humaine, et que je pense que les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Combien de fois disons-nous notre Père? En créole, il y a combien de fois le mot Père? Pas le mot Mère. Ah, mais là, on est dans l'humain.
Donc, je dirais d'abord que dans l'histoire d'Israël, on l'a appelé Dieu Père très tard. Parce que les autres peuples, les autres religions appelaient déjà leur Dieu Père. Mais tandis qu'Israël n'appelait pas Dieu Père, enfin Dieu Père, Dieu est le Dieu de nos pères. Ça, c'est important. Et puis ensuite, ils ont appelé Dieu Père quand, en exil, quand ils ont pris conscience que, en exil, si nous sommes là, alors on met la faute sur Dieu, vous savez, hein, voilà. tandis qu'en exil, ils se convertissent, et disent, on est peut-être bien engagé nous aussi là-dedans. Et qu'on n'appelle pas Dieu Père comme, si vous voulez, la source biologique de la vie, dans la Bible, on appelle Dieu Père comme source de notre liberté, notre responsabilité. Et que c'est ça, donc quand on dit notre Père, non, quoi, c'est vrai, toute la tradition juive et chrétienne, bien sûr, hein, pour moi, quand je dis notre Père, je dis, tu es la source de ma liberté, de ma responsabilité.
C'est magnifique, ça va, c'est toujours, hein, oui, vraiment.
Pardon.
Je ne considère pas mon père comme seulement mon géniteur. Mon père humain, c'est aussi celui qui est à la source de ma responsabilité et de ma liberté, qui m'a fait accéder à un peu de ça. Alors, on peut voir des choses à différents degrés.
Je voudrais faire une remarque sur l'aspect messianique du Christ. Le Christ n'a pas voulu être un messie, au sens où il n'a pas voulu être un homme de la puissance, il n'a pas voulu être un homme de l'idolâtrie, il a été incarné dans le temps et non pas une projection vers l'avenir. Chaque fois qu'on a essayé de faire de lui une idole, il s'est échappé, hein. Et ce n'est plus du tout, et de ne pas le voir sous cette forme-là, c'est précisément sur une idole.
Ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est qu'il ne se réduit pas à ce fils. Et qu'il y a dans la formulation des choses l'ouverture pour autre chose, pour une autre dimension. Et ouais, c'est l'intérêt que je trouve.
C'est certainement très simpliste ce que j'ai dit. Je suis protestante. Eh bien, pour nous, donc, Jésus le Christ est venu, mais il est aussi reparti. Et il nous a dit qu'il va revenir. Et personnellement, depuis toujours, je me sentais toujours très proche de la religion juive en me disant nous sommes tous ensemble dans l'attente. Nous sommes tous ensemble vivant dans une espérance qui est vitale pour nous pour pouvoir supporter ce qui se passe ici-bas et ce côté qui nous unit. Je trouve, pour moi, c'est très beau et c'est merveilleux, c'est très simple. Naturellement, maintenant il y a quelque chose, je voudrais juste vous raconter quelque chose de personnel. J'avais 5 ans quand ma mère est morte, donc j'ai traversé cette phase. Très vite, je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais pas pleurer non plus. Et surtout quand la nuit, le soir était éteint, ça travaillait en moi. Et j'ai très vite trouvé que les adultes mentaient, qu'elle n'était pas morte. Et j'avais l'idée suivante, et cette idée m'est venue seulement beaucoup plus tard, carrément psychologiquement aussi claire. Je n'avais pas le droit, nous les enfants n'avions pas le droit, nous étions 4 enfants, de sortir seuls de la maison, on vivait une grande vie. Mais là, je sortais seule de la maison, je me trouve dans la rue et je dis que très curieux, il fallait que je tourne à un coin. Je ne pouvais pas aller la rue tout droit. Il fallait que je tourne à un coin et dès que j'avais le coin tourné, je voyais ma mère qui arrivait avec les bras ouverts. Elle me prenait dans ses bras et tout était en ordre et j'étais terminée. Et cette image, finalement, de, au lieu de pouvoir de continuer la route tout droite, plus il vous faut de temps en temps peut-être bifurquer, vous voyez, pour avoir tout à coup une autre vie ou quelque chose d'inconnu. Est-ce que c'est pour donner de nouveau la nourriture à notre espérance, à notre attente, à quelque chose que nous ne savons pas ce que ça nous apporte. Vous avez dit, parlé tout à l'heure, cette espérance et que possibilité, il y aura l'égalité partout, il n'y aura plus ni des pauvres ni des riches, il n'y a plus, tout est très bien, mais c'est un monde qui, quand nous vivons ici-bas, m'ennuierait terriblement. On ne pourrait plus, on n'aurait plus la possibilité de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Alors, notre attente de la venue pour nous, les chrétiens, et pour les juifs, nous vivons dans une attente, dans une espérance, mais personne ne sait que ce sera. Et ça peut être, je peux mettre le mot espérance, ça n'a pas de c'est très beau.
Merci de votre témoignage, Marie.
Oui, Père Barthélemy a évoqué tout à l'heure le projet de Dieu en quelque sorte sur l'homme et le projet dans lequel il nous accompagne. Ouais, j'aimerais bien. Avec l'homme, oui, pardon. Un projet avec l'homme et dans, un projet dans lequel il nous accompagne. Et je me dis que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des étapes où finalement le sage a représenté un petit peu ce projet réussi. Bon, pour nous, il y a les témoins d'un certain style de vie. Bon, pour nous, Jésus a été, pour nos chrétiens en tout cas, Jésus a été cette perfection de l'humanité. Hein. Et moi je me dis que nous vivons tous un petit peu, à titre de témoin, un rôle messianique. On parle aussi du peuple messianique. Donc, vous voyez, il semble que la notion s'élargit. Au fond, pour nous chrétiens, le Messie est déjà venu et ce que nous avons à faire, c'est à grandir sur le chemin qu'il nous a proposé. Et nous pouvons donc, par le témoignage, alors là on rejoint la notion du témoin.
Je voudrais vous remercier beaucoup de ce que vous avez partagé, parce que ça répond à beaucoup de choses dans moi. Et puis je voudrais vous réconcilier tous, parce que on a tous une part de vérité. On a tous une part de vérité, mais qui n'est qu'une part, et de nous écouter les uns les autres, on s'apporte énormément. Et puis si vous m'aidez à prier pour l'ensemble, pour j'ose vous demander pour moi, pour avoir encore plus de discernement. Si un jour vous devez parler de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ne me citez jamais. Pour blaguer, vous pourrez dire la Jeanne d'Arc de la Dainty, mais j'ai perdu un enfant il y a 3 ans, et j'ai demandé au ciel si vraiment c'était Dieu qui est derrière cela, est-ce qu'il peut me donner un signe? Je ne me contenterai pas d'un signe, j'aurai besoin d'au moins trois pour être en résonance avec la Trinité. Et je n'ai pas versé de larmes pendant 48 jours, je ne pouvais pas. Je pense que le Seigneur m'a protégée quelque part. Il m'a préparée à cela. Et en 3 ans, j'ai versé 21 larmes. Depuis, mes yeux coulent dans l'abondance et je ressens la tristesse. J'ai pu ressentir. Mais j'ai auprès de nous à Val-d'Isère, quelqu'un qui était pris dans une avalanche au mois de février l'année dernière et qui est toujours dans le coma. Et il va y avoir en février 2009 au championnat du monde sur la piste des Jeux Olympiques qui n'a été courue une seule fois. Et sur une autre piste pour les femmes qui est très très difficile et qui n'a pas encore été homologuée. Si vous portez dans la prière et faire en sorte que nous puissions, si ce garçon est toujours dans le coma, il ne peut ni partir parce que sa maman a déjà perdu un autre enfant, ni revenir parce qu'il n'a plus ce qu'il faut pour revenir ici. Puisse Dieu nous aider à comprendre et à prier tous ensemble. De la même manière qu'on pourrait lui demander de l'aide par rapport à Ingrid Betancourt, il y a une petite jeune fille, Jacquemot, qui va courir à Val-d'Isère, qui a très peur et qui va se lancer sur cette piste de descente. Cette station, la vie maître, elle a fait depuis toute petite. Cette piste, elle connaît chaque brin d'herbe et un petit peu à l'image de Dieu, qui connaît chacun de nos cheveux. Pour lui, la terre, ce n'est qu'un grain de sable. Et en même temps, il nous connaît tous et il nous aime et il veut notre bonheur. Puissions-nous rentrer dans cette paix, dans cette union, dans cette unité, et nous respecter, nous écouter et nous entraider.
Merci. Bon, je reviens aux aspects du messianisme. Je suis conscient que ma présentation des choses est extrêmement réductrice. Je n'ai pas votre connaissance les uns et les autres. J'ai essayé simplement de repérer des aspects qui permettaient d'illustrer ma démarche. Mais bien sûr, c'est un thème qui est immense et très... Il y a toujours de nombreux développements.
Y a-t-il d'autres questions, Samuel?
Je voudrais simplement, sur le plan du judaïsme, rappeler que le Pentateuque, les 5 livres, qui se terminent au moment où la vie de Moïse se termine, n'a jamais parlé de Messie, ni de Messie. Ce sont les prophètes, ou c'est plus exactement Jérémie, mais un autre prophète, je crois. Donc, l'idée du messianisme se rapproche à ce que vous veniez de nous dire, que c'est beaucoup plus proche de l'humain. Qu'il n'est pas dit, à aucun moment Moïse n'a dit que si vous arrivez à malheur, soyez tranquille, il y aura le Messie. Ça n'a jamais été dit. Donc, c'est à partir des prophètes. Ouais, je voulais apporter cette précision.
Effectivement, Samuel, c'est cela, mais vous dites tout à fait que c'est humain, c'est un plan humain. C'était formidable votre exposé, parce qu'on a été dans l'humain, et avec des mécanismes en plus dont nous sommes tous friands de connaître dans notre fonctionnement, de notre inconscient, et dans cette part d'inconscient en nous, il y a peut-être ce point d'intériorité du Rabbi de Gur, peut-être cette partie de notre âme aussi transcendante, aussi proche de Dieu, et c'est un tout. Et peut-être lorsqu'on prononce, nous, notre schéma Israël, c'est Adonai Echad, c'est vraiment Dieu est un. Donc on est dans l'unité, et c'est vraiment la demande qu'il fait. Et je crois que ça, c'est l'objectif de tous, de trouver en nous cette unité, malgré un gros travail que l'on a à faire. Voilà. Est-ce que nous disons merci à nouveau à Bernard? Merci beaucoup. C'était un magnifique travail que vous avez fait. Magnifique. Et vraiment, je crois que c'était très clair au niveau de l'exposé, même si c'était difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude, pour certains en tout cas, c'est sûr, ce n'est pas évident. Merci beaucoup, Bernard. Et avec plaisir. Et je pense...